Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru initialement en 2011, Elle influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine est un essai de Ruwen Ojian consacré à la philosophie morale expérimentale. Son titre renvoie à des recherches suggérant que des circonstances très ordinaires, telles une odeur agréable, peuvent infléchir des conduites altruistes. Ojian ne transforme pas ce constat en recette de la vertu. Il y voit plutôt un moyen de mettre en doute la stabilité supposée de nos jugements moraux. Le livre propose une introduction accessible au grand débat éthique contemporain, par des cas fictifs, des résultats expérimentaux et une présentation de plusieurs doctrines. Canaux surchargés, tramways incontrôlables, décisions médicales ou situations sans victime servent à tester les réactions du lecteur. La première partie rassemble des casse-têtes moraux, tandis que la seconde examine les mécanismes des intuitions et les règles utiles pour les discuter. En arrière-plan se dessine la défense de l'éthique minimale, pensée libérale et antipaternaliste centrée sur le tort causé à autrui. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les expériences de pensée révèlent les tensions de nos jugements moraux. Ojian organise une grande partie de son enquête autour de scénarios volontairement dérangeants. Le dilemme du tramway constitue un exemple central. Détourner un véhicule afin de sauver plusieurs personnes peut entraîner la mort certaine de quelqu'un. Une variante impose de pousser une personne sur la voie afin de produire le même résultat. Dans les deux cas, le bilan paraît comparable, mais les réponses intuitives divergent souvent. Cette divergence permet de distinguer le poids accordé aux conséquences, aux intentions, aux moyens employés et au fait de tuer ou de laisser mourir. Des autres situations, comme le canot de sauvetage ou les questions liées aux animaux, prolongent cette méthode. Leur fonction ne consiste pas à simuler fidèlement une décision réelle, ni à obtenir une réponse définitive. Elles isolent certains éléments du raisonnement, puis montrent comment une modification limitée du contexte peut changer le verdict moral. Le lecteur est ainsi conduit à repérer ses propres incohérences éventuelles. Une règle importante se dégage des cas réellement semblables, devrait recevoir un traitement semblable. Pourtant, déterminer ce qui est moralement pertinent dans une ressemblance reste difficile. Le livre utilise cette difficulté pour faire apparaître les conflits entre conséquentialisme, déontologisme et autres cadres normatifs, sans réduire ces traditions à des slogans. Deuxièmement, les intuitions morales sont exposées aux circonstances les plus banales. Le titre résume une idée décisive de la philosophie morale expérimentale. Le jugement et le comportement moral ne proviennent pas uniquement de principes conscients et solidement établi. Ojian évoque des expériences où une pièce trouvée par hasard ou une odeur plaisante semble favoriser une aide spontanée. Ces exemples ne prouvent pas que toute générosité serait superficielle, ni que les principes moraux ne comptent jamais. Ils invitent plutôt à mesurer la part de contingence dans des attitudes que chacun aime présenter comme stables. Si des facteurs mineurs influencent une disposition à aider, il devient prudent de tirer des conclusions générales sur le caractère vertueux ou mauvais des individus. Cette perspective met aussi en question certaines théories qui font des intuitions immédiates une base suffisante pour édifier une morale. Une intuition peut être forte, partagée et néanmoins dépendre du cadrage, de l'humeur, du vocabulaire ou du contexte social. Ojian examine donc les rapports entre émotion, raisonnement et enquête empirique, sans prétendre que la science puisse remplacer la réflexion philosophique. Les données expérimentales décrivent des réactions. Elles ne décident pas seules de ce qui doit être fait. Le rapport est critique, elles obligent à examiner la fiabilité de nos réactions avant de leur confier un rôle normatif majeur. Troisièmement, une boîte à outils contre les grands mots et les raisonnements hâtifs. Le projet pédagogique du livre consiste moins à fournir un code de conduite qu'à donner des instruments de discussion. Ojian se méfie des appels automatiques à la dignité, au devoir, à la vertu ou à la nature humaine lorsque ces mots servent à clore un débat sans justification. Il propose de soumettre les affirmations morales à des questions simples. Quel dommage est invoqué? Qui le subit? Les cas comparés sont-ils vraiment différents? Et une règle peut-elle être appliquée de manière cohérente? Cette méthode ne rend pas les conflits faciles à résoudre. Elle rend toutefois plus visible ce que chaque position suppose. Par exemple, affirmer que certaines pratiques sont condamnables parce qu'elles sont inhabituelles. Choquantes ou contraires aux mœurs ne suffit pas encore à démontrer un tort envers autrui. De même, invoquer le meilleur résultat global ne dispense pas de demander quels moyens sont acceptables pour y parvenir. La présentation des doctrines classiques a donc une fonction pratique. Le conséquentialisme attire l'attention sur les effets des actes. Le déontologisme insiste sur les contraintes qui limitent les moyens. Les approches centrées sur les vertus déplacent le regard vers les dispositions. Ojian refuse de les présenter comme des réponses mécaniques. Il apprend surtout à identifier les prémices, les exceptions et les conséquences des arguments ordinaires. Quatrièmement, l'éthique minimale limite la morale au tort infligé à autrui. L'orientation propre de Ruwen Hodgien apparaît dans son éthique minimale, inspirée notamment par le principe de non-nuisance associé à John Stuart Mill. Elle soutient que la condamnation morale doit viser en priorité les actes qui causent intentionnellement un tort à autrui. Cette position s'oppose au paternalisme moral, soit la tendance à juger ou contraindre des personnes pour leur propre bien, ainsi qu'aux morales qui prétendent surveiller toute la vie privée. Elle met également en cause la notion de crime sans victime. Une conduite peut déplaire, heurter des sensibilités ou sembler imprudente sans devenir pour autant une faute justifiant une intervention morale ou politique. Cette thèse ne revient pas à nier les difficultés de définition du tort, du consentement, de la contrainte ou de la vulnérabilité. Au contraire, elle oblige à les examiner avec précision, dans des domaines comme la sexualité, la bioéthique, la consommation ou les usages du corps. La question pertinente devient moins celle de la conformité à une norme collective que celle des dommages effectifs imposés à des tiers. Le minimalisme ne promet donc pas une permissivité sans condition. Il exige que les restrictions soient justifiées par des atteintes identifiables, plutôt que par le dégoût, la tradition ou une vision imposée de la vie bonne. Cette exigence donne au livre sa portée critique et libertaire. En dernier lieu, la morale devient un objet de comparaison entre philosophie et enquête empirique. Le livre se situe à la rencontre de deux démarches. La philosophie construit et compare des arguments normatifs, elle cherche à savoir quelles raisons peuvent justifier une décision. La démarche expérimentale observe les réponses de personnes confrontées à des scénarios et tente de repérer les facteurs qui les modifient. Hodgien montre que cette rencontre est féconde, mais qu'elle doit éviter deux confusions. Une enquête peut constater que beaucoup de personnes jugent un acte acceptable. Elle ne démontre pas pour autant que cet acte est juste. Inversement, une théorie très cohérente peut ignorer la manière dont les humains évaluent réellement les situations. Les expériences de pensée, complétées par des études de psychologie sociale, permettent de mettre ces deux dimensions en dialogue. Elles révèlent notamment que les opinions diffèrent selon la description retenue et selon la distinction entre agir directement, prévoir un effet ou refuser une intervention. Le lecteur comprend alors pourquoi le désaccord moral ne se réduit pas forcément à un manque de logique ou de bonne volonté. Il peut résulter de valeurs concurrentes, de perceptions différentes du dommage ou de réactions sensibles au contexte. Cette approche favorise une forme de modestie intellectuelle. Elle ne dissout pas toute responsabilité dans les circonstances. Mais elle déconseille de transformer trop vite une réaction personnelle en vérité universelle ou en jugement définitif sur autrui. En conclusion, cet essai convient particulièrement aux personnes qui souhaitent entrer dans la philosophie morale sans commencer par un traité systématique. Il intéressera les étudiants, les enseignants, les lecteurs curieux des débats sur la liberté individuelle, la bioéthique, les animaux ou les choix collectifs, ainsi que toute personne désireuse de mieux argumenter dans les controverses ordinaires. Son bénéfice principal est moins de livrer des réponses prêtes à employer que de faire reconnaître les présupposés cachés derrière des réponses apparemment évidentes. Les dilemmes peuvent nourrir une discussion, mais leur intérêt durable réside dans le travail de comparaison qu'ils imposent entre intention, conséquence, consentement et préjudice. Par rapport à de nombreuses introductions à la morale, le livre se distingue par une association inhabituelle entre traditions philosophiques, expérience de pensée célèbre et attention aux résultats de la psychologie expérimentale. Cette combinaison donne une place active au lecteur, il doit d'abord éprouver ses intuitions, puis accepter de les examiner. La défense de l'éthique minimale fournit en outre une ligne argumentative visant à affirmer, sans effacer les objections et les difficultés que soulèvent les cas concrets. Certains lecteurs pourront souhaiter des développements plus approfondis sur telle doctrine ou telle étude. Cette limite correspond aussi au choix de vulgarisation de Hodgien. Le livre vaut surtout comme instrument de désacralisation du moralisme et comme initiation rigoureuse à une éthique attentive aux dommages réels plutôt qu'aux interdits hérités. Si vous souhaitez soutenir Ruwen Hodgien, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.